Ok. En Romains chapitre 8, ce n'est pas le message, mais c'est juste un encouragement pour nous. Je suis en train de regarder pour le verset. Nous sommes vivifiés, mais je juste cherche pour le verset. Voilà, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, ça veut dire qu'il vivifie nos corps physiques et il peut vivifier nos pensées. Il peut éclairer nos pensées parce qu'on peut expérimenter une fatigue comme ça, mais dans un moment, une parole qui peut venir, et bien sûr, la parole ne vient pas juste audiblement, mais l'esprit utilise cette parole et peut guérir nos corps, en fait, peut vivifier nos pensées. Des fois, c'est pourquoi on pose la question, pourquoi après un message, après un dimanche matin, on est tellement vivant comme nous avons, comme Robert a dit, c'est le mercredi soir, c'est les Oval Martin, c'est comme un boost qui est mieux que le café, mieux que un double espresso. Donc, d'être vivifié par l'esprit et nos pensées sont vivifiées et le corps aussi. On peut se dire, waouh, après ça, j'ai beaucoup d'énergie, je sors avec joie. Donc, voilà, juste penser à ça. Une conséquence d'être rempli avec l'esprit et d'être sous l'enseignement de la parole de Dieu dans une église qui a l'esprit de Dieu. Et bien sûr, l'onction est augmentée par les attentes. Par ceux qui écoutent, les auditeurs. Ce soir, on va prier. Seigneur, merci de bénir cette parole maintenant dans ton bon nom, glorieux. Ouvre cette parole, c'est pour ta gloire et pour notre édification, afin qu'on va vivre avec toi pour l'éternité. On a besoin d'une couche d'enseignement, une couche plus, Seigneur. Donc, merci. Amen. Je suis en train de regarder la vie de Noé ces derniers jours. Et nous avons Genèse chapitre 5 qui donne la généalogie entre Adam, c'est la ligne de Seth en fait, parce que nous avons Seth, nous avons Cain qui a tué son fils, son frère Abel, et nous avons Seth. Donc la ligne de Seth. Et nous avons, en fait, nous avons deux lignages. La généalogie de Cain, et c'est les méchants, vraiment, qui sont commencés méchants et continuent de progressivement être plus méchants. Et nous avons l'une de sept, et nous avons les hommes, on peut dire, spirituels, les hommes qui cherchent Dieu, les hommes qui étaient plus moralement, peut-être, c'est mieux de dire moralement bons, il y a une bonne moralité. Il y a deux personnages dans le Genèse chapitre 5 qui sont intéressants. Le premier, c'est Enoch. Enoch était le premier croyant enlevé. Le deuxième dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Et le troisième va être, en fait, et plusieurs va être l'Église pendant cette période d'enlèvement à la fin de l'âge de la grâce. Mais le deuxième personnage qui s'intéresse est Noé. Et en Genèse chapitre 5, nous avons, peut-être je vais noter le verset, vous pouvez noter pour vous-même pour lire après. C'est le verset que j'ai utilisé pour une référence pour cette étude ce soir. Et on commence avec Lamech qui est tellement fatigué en Genèse 5 verset 28. Et il dit, ah, maintenant nous avons un fils qui s'appelle Noé. Donc Noé était, je vais juste voir pour avoir une continuité, verset 28, il a dit, il avait un fils né quand il avait 182. Et 29, son nom est Noé. Donc, nous avons Noé, mon Seigneur, verset 29. Après ça, nous avons verset 32 qui parle de Noé. Évidemment, nous avons Genèse chapitre 6, 7, 8 et 9 qui parle de Noé. Après ça, nous avons Hébreux chapitre 11, verset 7, parle de Noé. Matthieu chapitre, je vais juste vite retourner là, Matthieu chapitre 24. Et nous avons un passage en chapitre 4 qui parle des jours de Noé. Semble comme les jours que le Fils de Dieu, Jésus, va retourner. Je suis en train, oui. Verset 37, Matthieu 24, verset 37, 38. Ça, c'est intéressant aussi. Verset 39 mentionne aussi le déluge. Également, nous avons 1 Pierre chapitre 3, verset 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Ce n'est pas nécessaire d'aller tout de suite dans ces versets, mais juste de savoir. Et 2 Pierre chapitre 2, je suis en train de juste regarder pour le verset. Voilà, verset 5. 2 Pierre 2, 5. Et de ces versets, je propose à parler de la foi de Noé. Et j'ai 7 points qui parlent de Noé. Et chaque fois que je regarde ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses mentionnées de Noé, sauf pour l'histoire en chapitre 6, 7, 8 et 9 qui parle un peu de lui. Mais nous avons ces autres, on dit en anglais, gems, c'est des petits trésors dans ces autres versets qui peuvent éclairer, qui peuvent expliquer un peu plus pour nous, bien sûr dans le contexte. Donc il faut savoir qu'il était 1656 années entre Adam et Noé. Et en fait, entre Adam et le déluge, d'être plus précis. Si on prend ce chapitre 5 de la généalogie, et littéralement on ajoute tous les âges de chaque personnage mentionné, nous avons le total 1656. C'est une calculation. Il y a certains théologiens qui disent qu'il y a des lacunes dans le chapitre. C'est plutôt une généalogie, qu'est-ce qu'on dit? Un peu plus réduite. C'est une généalogie. Mais une chose qui est sûre, entre Methuselah et Noé, il n'y a pas de réduction. C'est clair parce que nous avons Methuselah, en fait Enoch, Methuselah, après ça nous avons Lamech et Noé. Methuselah, Lamech et Noé. Et donc évidemment la connexion était tellement proche. La raison pour ça est parce que Methuselah était le nom, j'ai finalement découvert ça dans une concordance. Quand il est mort, le déluge va venir. C'est ça, en fait. Ce n'est pas dit le déluge, mais c'est cette chose va venir. Ça veut dire, ça implique qu'il y a un jugement. Donc, Methuselah était vivant pour 969 ans. Ça, c'est intéressant de savoir. On peut dire, on utilise cette expression de dire, maintenant, il est plus âgé que Methuselah. Donc, un homme qui est tellement vieil, âgé. Mais la chose que je voudrais parler, si on voit le contexte, Genèse chapitre 6 parle d'une dépravité, une perversité, une telle violence, une telle guerre et la méchanceté dans le cœur de chaque homme depuis sa jeunesse. Donc on parle de toute l'humanité. Quand on dit les hommes, on dit les femmes, on dit les enfants aussi. On peut dire, waouh, mais ça c'est horrible. Mais en fait, Dieu, quand il regarde, et c'était plutôt, j'aime cette image, d'un avion. On prend un avion pour voyager. Imaginons, on est en train de passer entre, Genève et Londres, par exemple, et on passe sous la ville de Paris. Et on peut voir Paris clairement parce que le nuit, c'est, imaginons on est en train de voyager pendant le nuit. Et on voit, et on peut regarder, et on peut voir les lumières de la ville. Mais imaginons que c'était Dieu. Et les points de lumière sont les, qu'est-ce qu'on peut dire, ceux qui sont justes, ceux qui sont en fait en connexion avec Dieu. Et quand c'est dit qu'en fait que personne n'a été intéressé de Dieu, il a regardé, il a vu juste obscurité. C'est choquant. Le Créateur voit de sa création personne intéressé, personne. Tout c'est dans la méchanceté, le mal de ses pensées. Donc depuis le début, donc c'est horrible. Et on peut dire waouh, ça c'est l'état sur la terre. Et deux fois dans Genèse chapitre 6, le mot violence est utilisé. Ça veut dire c'est des guerres, c'est des violences. En fait, il est beaucoup plus, mais c'est pas ce soir que je propose d'entrer dans ça. Mais simplement de savoir l'état de la terre, de la civilisation avancée. Advancé technologiquement, probablement, mais moralement dépravé comme jamais. Et nous avons « mais » dans verset 8, Genèse chapitre 6, verset 8. Et on va arriver de mon point. On va parler de la foi de Noé. Verset 8. Chapitre 6, Genèse. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et le mot mais, parce que Dieu est tellement brisé, tellement attristé par tout ce qu'il voit, qu'il dit, je dois finir. Je dois dire, OK, c'est la fin pour l'humanité. Je vais détruire tout. Voilà. Mais il a dit, mais Noé. Donc, il a trouvé un point de lumière. Il a trouvé un homme et sa famille. Un point. Et de cette verset, on peut tirer cette explication. Il a trouvé grâce et le mot qui sortait de cette verset est le mot trouver. Il a trouvé. Ça veut dire pourquoi? Parce que Moïse est en train de chercher pour quelque chose. Noé, merci pas Moïse. Noé est en train de chercher pour quelque chose. Il a trouvé. S'il a trouvé quelque chose, c'est parce qu'il est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Quand il voit toute cette obscurité et cette méchanceté et le manque de justice et la violence et l'abus et le... Voilà, on ne peut pas commencer à expliquer l'état sur la terre. Quand il a vu tout ça, il a tourné, il a cherché. Parce qu'il était toujours... dans la conscience de l'homme, éternité dans son cœur, en Ecclésiaste chapitre 3. Donc cette lacune a toujours existé, et aussi le fait que la tradition qui a passé, j'imagine que l'histoire de le jardin, l'histoire d'Adam et Ève et la chute était transmise. Et Caïn et Abel étaient transmis dans les générations. Et que Noé était quelqu'un qui a tourné vers Dieu dans un moment précis, comme Enoch a tourné vers Dieu. Parce qu'Enoch a vécu 65 ans sur la terre. Il avait un fils, et le moment qu'elle avait ce fils, il a dit, après ça, il a marché avec Dieu pour 300 ans. Ça veut dire, ce n'était pas tout de suite, mais il avait... un moment de... Il accepte Dieu, en fait. Il accepte Jésus, en réalité, comme nous, pour sauver. Il était un moment de clarté, un moment de révélation de Dieu. Et pour Noé, il était un moment. Il a cherché, il a trouvé. ceux qui cherchent pour la justice vont être remplis. C'est une promesse de Matthieu chapitre 5. Si on cherche pour la justice de Dieu, Dieu qu'on voit les méchancetés, les injustices dans cette terre, Dieu va dire, voilà, ça c'est quelqu'un. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui me cherche. Maintenant, je peux faire quelque chose. Il a trouvé la grâce. Nous avons tous ces moments et on a vécu ces moments. On était réalisé qu'on est sur la terre pour une raison. Et on a tourné et a dit, wow, est-ce que tu es là, Seigneur? On a tous ces moments de cette réalité. Ah, Seigneur, tu es là maintenant. Et on pose la question, Dieu, si tu es là, parle avec moi. Je veux te connaître, je veux connaître plus. Et c'est le début de sa relation avec Dieu. Le début de notre relation est de tourner et dire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es vraiment là? Et on tourne, on a un éclairage, il y a quelque chose qui passe. Et Dieu parle et dit, OK, voilà, maintenant on peut commencer quelque chose. Il est en train de nous éterrer avant et on était partout avec nos autres entrées. Mais il a dit, OK, maintenant j'ai la tension. Maintenant tu me regardes. Maintenant c'est le moment qu'on peut faire quelque chose. Et pour Noé, ce moment a passé. Donc ça c'est le premier point. Il a trouvé la grâce. Il a cherché pour la grâce de Dieu. Et Dieu a attiré avec son amour, avec le courage d'amour, il a attiré Noé et Noé lui répondait. Il a répondu. Et la deuxième chose on peut voir est de parler de le fait en verset 9. C'est intéressant de voir ça. Verset 9 de chapitre 6. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était juste. Comment peut Noé être juste? La justice, il y a deux types de justice. Notre propre justice, justice de soi et la justice de Dieu. La différence entre les deux est ma justice et qu'est-ce qu'on peut dire? Subjective. Je pense, OK, je suis raison. J'ai raison. Mais quelqu'un d'autre peut dire la même chose. Voilà, j'ai raison aussi. Et le problème est quand nous avons deux personnes avec un conflit. Il a dit oui, c'est moi. Et on a dit non, c'est moi qui ai raison. Donc il y a un conflit. Mais quelle est la réponse? Dieu dit, écoute, c'est moi et je suis absolu et ma état et la position est beaucoup plus haute que vous tous et j'ai raison. La justice de moi est absolue. Et nous, on est dans l'abstrait, on est dans le subjectif, on est dans un sens que toutes les choses en fait est propre dans nos propres yeux. Donc c'est bien, bon, comme la femme de juge. Il n'est pas un roi dans le pays et tout le monde a fait, chaque homme a fait ce qu'il pense est bon. Selon sa propre regard. Ça veut dire anarchie totale. On est quelqu'un qui était justifié par Dieu. D'être juste dans les yeux de Dieu, d'avoir trouvé la grâce dans le regard de Dieu et de dire que Dieu a accordé sa justice. Comment Dieu a accordé sa justice? Parce que pour Abraham, il a cru Dieu et Dieu a rendu Abraham juste. C'est Genèse chapitre 15, verset 6 et Romains chapitre 4, verset 3. Ça veut dire on est d'accord de croire en lui, on ne met pas notre justice parce qu'on est tellement orgueilleux et on pense moi et moi et le Seigneur dit écoute. Non, tu n'es pas le centre du monde. C'est moi qui ai le grand je suis et d'accepter de croire en lui tout de suite, c'est le début de ma vie avec lui. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, parce que je crois en lui, maintenant je suis déclaré juste. Et quelle est la conséquence d'être déclaré juste? Je suis comme Dieu maintenant. Et si je suis comme Dieu, je suis accepté par Dieu. Et donc, ce n'est pas une question de mes émotions, mes sentiments, comment je sens aujourd'hui. Dieu a dit, tu es juste. Et quand il a nous justifié, c'est pour l'éternité. Ça veut dire, sanctification et justification sont deux choses différentes. La justification est quand un seul acte fait grâce à Jésus-Christ sur le croix, on est déclaré juste, on est justifié maintenant devant Dieu. La sanctification est quelque chose qui passe chaque jour de notre vie suite à ce premier acte de justice, de me déclarer juste. Juste, c'est pas juste en fait dans un sens parce qu'il m'a déclaré juste, mais j'ai mérité en faire comme ça, comme tout le monde. Mais je suis maintenant juste et chaque jour je marche avec lui et je peux dire, mais je suis un homme terrible ou une femme terrible, je ne sens pas bien dans mes émotions, je suis accusé par moi-même, j'ai fait cet acte. Je regardais quelqu'un en train de conduire aujourd'hui et j'ai dit des mots qui sortent de la bouche. C'était pas très gentil. Wow, regarde-moi. Et il y a une voix dans mon oreille qui dit, oui, tu es terrible, vois ça. Comment tu peux penser que tu es un bon chrétien quand tu fais quelque chose comme ça? Ma problème est, je ne vis pas dans la justice avec Dieu, mais dans ma sanctification. Et je ne peux pas vivre là, je dois vivre avec lui, dans le fait absolu que je suis déclaré juste. Comment application pour Noé? Parce que Noé était autour d'une grande multitude des hommes et des femmes. Et pour lui, il voit la méchanceté, il voit les gens en train de moquer, attaquer, faire des choses horribles. Et lui, il entre dans sa propre justice et dit, non, Dieu, pourquoi que tu laisses ces hommes de faire ça? C'est terrible. Ou il peut tourner vers Dieu et dire, ok, je sais que tu as un plan, Seigneur, je ne peux pas voir ton plan, mais je sais que tu es juste et un jour, tu vas rendre la justice à chaque homme et chaque femme va être devant toi et la justice soit faite, en fait, pour chacun. Mais de savoir que pour lui, d'accepter qu'il est juste et parfait, parfait, c'est un autre mot, intègre. Le second dit intègre. Il n'y a aucune possibilité d'accuser parce qu'il était sans reproche, en fait. De dire qu'il était intègre ou parfait et de dire qu'il n'était aucun reproche pour lui. Dieu ne va pas reprocher Noé. Et donc, ça, c'est bien pour Noé de savoir que malgré tout ce qui va passer, parce qu'il va passer 950 ans sur la terre, il avait 500 ans quand il avait trois fils, 600 ans quand le déluge est descendu. Et voilà, il continue de marcher avec Dieu. Et voilà, juste de savoir qu'il est intègre, il a marché avec Dieu et il a regardé toujours à Dieu lui-même. Il n'a pas été concentré dans les autres choses. Parce qu'en concentrant les autres choses, on perd cette connexion avec Dieu. Donc lui, il a continué de marcher. Donc, premièrement, il est un homme qui a trouvé la grâce dans les yeux de Dieu parce qu'il a cherché. Deuxième, il était déclaré juste. La justice de Dieu parce qu'il a cru. Et le troisième, c'est intéressant de savoir en Genèse chapitre 5. Je vais tourner là. Lamech a dit après Noé était né, il a dit, il lui donne le nom Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Ça veut dire que la malédiction était toujours sur la terre. Donc, le travail, c'était pénible. Le travail d'un agriculteur, de vraiment s'aimer et de récolter et des années, il est dit, donc on est quelqu'un maintenant qui peut nous aider. On est tellement fatigué. Et il a dit, son nom est Noé, ça veut dire repos. Donc, repos dans un âge tellement distrait, tellement pénible, tellement fatigant. Parce que tu peux voir les mecs en train de travailler, de faire des choses justes, et probablement une grande population autour en train de faire de voler, de chercher des choses, d'installer, d'être riche. Et lui, il a juste fait son travail. Il n'a pas cherché un nom pour lui-même. Donc, voir que nous, il est finalement que nous avons quelqu'un qui peut nous aider. On est fatigué. La première chose, Noé, il a déjà donné un nom, donc il avait une attente. Qu'est-ce que se passe pour nous? Est-ce que nous avons une attente sur quelqu'un? Est-ce que pour Noé, ça va être une pression sur ses épaules parce que maintenant il est né et parce qu'il est en train de vivre avec cet standard que l'Amec a placé de dire, voilà, finalement, Noé va nous aider, il va nous sauver. Non, Noé ne va pas nous sauver, Dieu va nous sauver. Mais Noé peut être utilisé par Dieu. Quelle est l'application de ça? On va mettre une parenthèse. Personne peut nous aider et sauver ou être notre délivrance, sauf Jésus-Christ. On ne peut pas trouver dans un homme ou une femme, je ne peux pas chercher, ma femme est tellement gentille, mais elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle est ma femme. Elle est pécheur, sauvée par grâce comme moi. Elle est mon aide, aide on peut dire. Elle est mon soutien dans mon ministère. Mais elle n'est pas Dieu. Il y a des choses seulement Dieu peut faire et on ne peut pas mettre la pression sur quelqu'un. Dans l'anglais, nous avons ce phénomène, cette expression de mettre quelqu'un sur un piédestal. Ça veut dire presque d'idolâtrer, de dire cette personne est comme ça. Et je me rappelle que si on dit ça, ça va être un problème pour la personne, un problème pour nous. Noé, mettre Noé sur un piédestal et qu'est-ce qui va passer? Quand il a chuté, quand il fait quelque chose, il va être une déception. Quelle application pour moi quand quelqu'un dit, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux, mais grâce à Dieu, je peux aider. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je vais dire clairement pour vous tous, mais pour l'enregistrement, je suis pécheur sauvé par grâce. Amen. Merci Seigneur. Mais je suis un pasteur et un homme ordinaire. Un appel très spécifique pour servir le corps de Christ. Un don donné à le corps de Christ. Le pasteur n'est pas un homme avec une chemise avec un grand S ici. Superman? Non. Super pasteur? Non. Il est un homme ordinaire comme nous tous. Et si vous passez 5 minutes avec moi, vous pouvez voir tout de suite. Je suis juste ordinaire comme tous les autres. Jamais, jamais, jamais mettre les gens sur un piédestal. Jamais. Parce que c'est la route de déception pour nous. Et cette personne ne va jamais arriver de l'attente. Mais si on honore Dieu et on honore la personne avec un respect, cette personne, bien sûr, peut être utilisée par Dieu. Mais on ne peut pas être, donc un homme ne peut pas être dans la place de Dieu pour sa femme. Une femme ne peut pas être dans la place de Dieu pour son mari. ni un père ou mère qui sont peut-être intègres, sérieux, 20 ans, 30 ans d'expérience, des chrétiens formidables. Non, personne ne peut faire ça. C'est Dieu et Dieu seul. Dans notre chair, on n'est rien. On ne peut faire rien. On peut faire beaucoup de bêtises, mais on ne peut pas faire des choses pour Dieu sans lui. On peut juste avoir cette apparence de piété, mais un manque de la puissance de Dieu. Donc, toujours, chacun devant Dieu. Comment on peut aider quelqu'un? Présente cette personne devant le Seigneur. Dis, voilà, Seigneur, aide cette personne dans son ministère. C'est ça. Donc, Noé avec une attente, peut-être Lamech avec l'attente. Noé va être notre repos. Non, Noé avec Dieu va être une forme de repos dans un âge maudit. Et nous, application, deuxième acclamation, on peut tirer de ça. On est un repos pour les autres. Parce que, pourquoi? Parce qu'on entre dans le repos que Dieu a préparé pour nous. Parce que Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4 parlent de ce repos de la foi, d'entrer. C'est un peu abstrait, mais imaginons ça. Dieu a demandé au peuple de marcher avec lui dans le désert avec Moïse et d'entrer dans le pays promis qui va être finalement le repos pour le peuple. Et est-ce que c'était un repos? Dans un sens, oui. Dans le désert, il ne peut pas faire récolter les céréales. C'était le désert. Dieu a pourvu tous. Le pain qui est descendu du ciel. Littéralement, les vêtements qui ne sont pas déchirés, ni corrompus, ni abîmés par la marche dans le désert pour 40 ans. Donc, on peut dire dans un sens, c'est un peu comme un repos, mais ce n'était pas le repos que Dieu a accordé. Le repos est un repos de quoi Dieu est d'être soumis sur lui et de reposer avec lui qui prend le joug pour nous, et lui qui prend les fardeaux pour nous, et lui qui prend les problèmes pour nous. Ça, c'est une forme de repos. Ça, c'est le repos, un repos de travail. Et donc, Noé était un repos pour les autres comme nous sommes un repos pour les autres. Parce que ce n'était pas en nous, c'était Dieu en nous en fait. Et le repos vient par lui. Donc, si on repose en Dieu, on peut être une forme de repos pour quelqu'un d'autre. Imaginons, on est un exemple, quelqu'un entre dans cette salle qui est tellement troublé. On peut... Cette personne va dégager une négativité, dégager le stress. Mais imagine l'autre possibilité. Quelqu'un qui vient, qui est en train de juste reposer en Dieu. On va discerner la paix de Dieu dans cette personne. Et on va, ce qui est dégagé est le repos de Dieu. Et on va dire, wow. Et des fois, c'est pourquoi les gens disent, wow. Avec vous, quand vous entrez dans une salle, c'est la paix. Quelqu'un d'autre entre, c'est un tourbillon. Donc, on amène la paix parce qu'on est paix dans nos cœurs. Et Noé repose parce qu'il a une connexion avec Dieu. Ça, c'est la vraie connotation, la vraie signification de le fait qu'il était appelé repos dans un âge qui était tellement pas le repos. Et on est dans un âge un peu comme ça maintenant. Rien est nouveau sous le soleil, comme en Ecclésiaste. Le monde est toujours en train de tourner. On est plus d'injustice comme jamais. Les guerres, les abus, on est inimaginable, la criminalité et tout. Mais voilà, voir avec tout ça qu'il y a un peuple qui peut reposer. On n'est pas appelé de sortir de ça, on est appelé de vivre au milieu de ça, mais de reposer avec le Dieu qui marche avec nous, jour après jour. Et c'était le même pour Noé, c'est le même pour nous. Est-ce que Dieu était fidèle avec Noé? Oui, il était fidèle. Est-ce que le même Dieu va être fidèle avec chacun de nous? Oui, il va le faire. Le quatrième point. C'est bien pour vous? C'est bon? OK, très bien. Pour vous aussi en Zoom? Vous pouvez faire ça ou ça, c'est comme vous voulez. C'est bon? Super, très bien. Encourageant. Ok, je vais continuer. Noé était un évangéliste. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. On va tourner là. 2 Pierre 2, 5. Ok. Donc, verset 4. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserver pour le jugement, donc c'est pas de les anges, voilà, c'est pas parler des démons en fait, ceux qui sont avec Satan. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le huitième de Adam, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc, ici, prédicateur de la justice. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Pour les gens qui disent, et j'ai enseigné le cours de servant dans l'Ancien Testament jeudi passé, je dis l'attaque le plus, le plus agressif, le plus intense est contre le premier 11 chapitres de Genèse. Pourquoi? C'est le début. C'est le fondement, dans un sens. Oui, le fondement Jésus-Christ est lui ressuscité, évidemment. Christ crucifié, enterré, ressuscité, et nous aussi. On peut dire ça, mais Dieu a placé les fondements, la création, la chute. Et quand on enlève la création, on peut enlever le chute aussi. Parce qu'on peut dire tout c'était évolution. On est en train d'être transformé dans un sens. Mais ce discours enlève le mot péché et enlève le mot création et enlève le mot, en fait, finalement, chute et finalement Dieu. Et donc, c'est facile après ça de dire, wow, il n'est pas un Dieu, il n'est pas un péché. C'est comme John Lennon. Le logo de l'airport Liverpool, John Lennon, l'airport à Liverpool, et le chant, imagine there's no God, imagine no devil as well. Imaginons, et le mot, just above the sky, juste au-dessous, sous nous, c'est le ciel. Donc, pas de Dieu, pas de diable, pas d'éternité. Et donc, c'est choquant. De voir comment l'attaque diabolique, c'est satanique en fait. Je ne vais pas mincer les mots. Les Beatles sont utilisés pour, comme les Rolling Stones, pour ajouter des choses démoniques dans notre société. Et on est en train de récolter tout ça maintenant. Mais de voir que le premier 11 chapitres sont vraiment essentiels, création. Et voir Noé, quand on voit le fait que le Nouveau Testament parle de Noé et le déluge mondial, on peut dire, ok, Nouveau Testament. Quand Jésus parle de Noé et le déluge universel, ça veut dire que Jésus a dit, c'est vrai, ce qui a passé est vrai. C'est lui qui donne, quel est le mot? C'est pas la valorisation, c'est-à-dire, il dit, c'est une vérité qui a passé, et on peut dire, on est d'accord parce que Jésus a dit ça. Jésus a parlé de Sodome et Gomorrhe, ça c'est vrai aussi. Donc ces choses sont littérales. Adam et Ève, ils parlaient de ça. Il a parlé de la chute de Lucifer du ciel. Donc, voir quand on a été attaqué, et la Bible est attaquée, la chose importante de savoir, et nous avons une protection, une défense, parce que Jésus fait une référence de ça, de l'Ancien Testament. Donc, c'est évident, il y a quelque chose ici, c'est vrai. prédicateur de justice, prédicateur de justice. Il est en train de prêcher. Il faut juste voir le temps ici. Je fais un peu de calculation. Noé avait 500 ans et il avait 3 fils. À 600 ans, le déluge, est-ce que c'est le 7e mois ou le 17e jour, le déluge a commencé. Comme ça. Et c'est resté jusqu'à le 601. Oh, je n'arrive pas. 601 year. 601 années. Mais il faut savoir que avant il était en préparation. Dieu a dit, c'est la fin pour l'humanité. Je vais faire plus. Je vais œuvrer pas plus avec l'humanité. Je vais donner 120 ans. 120 ans, ça veut dire il a averti Noé en avance de ces choses, probablement quand il avait 480 ans. Il a donné un temps pour lui de préparer l'arche. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prêcher. Probablement pour plus de 100 ans. Prêcher, 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 prêcher. Jérémie est en train de communiquer et prophétiser et personne n'est sauvé, personne n'a accepté. Noé, on est clair, 8 personnes sont entrées dans l'arche. Lui et sa femme et toi fils et les femmes des fils aussi, ses belles filles. Donc, ce n'est pas plus que ça. Imaginons, un arche, il est en train de construire un arche, donc beaucoup de travail, et tout le monde probablement est en train de regarder ça, et il est en train de prêcher. Et personne n'a répondu. Et donc, tous les autres morts à la déluge. C'est encourageant pour nous qu'on est plusieurs et on est en train d'annoncer un jugement à venir aussi. Et le moment d'accepter Christ maintenant et d'entrer dans l'âge qui est un type de Christ en fait. L'âge est l'antitype. Non, l'âge est le type et Christ est l'antitype. Ça veut dire qu'il est une représentation. En Ancien Testament de Jésus-Christ. Et on entre dans l'âge et on est protégé. On entre en Christ, on est en Christ et nous sommes maintenant protégés du jugement. Donc il a prêché, prêché, prêché pour des années. Donc soyons encouragés parce qu'il y a des gens qui répondent et les gens sont sauvés. Et pour nous, ça c'est tellement encourageant. Et juste pour dire que, Marine, si je peux. Marine a accepté Jésus-Christ. Elle a prié avec nous. Je ne peux pas dire comment on était tellement encouragés par ça. Noé a prêché, 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 personne n'a accepté. C'est extraordinaire. Vois comment Dieu est bon avec nous parce que peut-être on n'est pas la même foi de Noé. On peut dire, Seigneur, je veux voir une personne sauvée. En fait, juste pour dire, moi et ma femme, on a prié pour de voir les gens sauvés parce que pour nous, c'est comme un bébé spirituel, c'est un naissance spirituelle. Et donc, prions chacun de nous pour les convertir, pour les gens qui vont être sauvés parce que c'est tellement encourageant de voir un nouvel vie en Christ, de voir quelqu'un qui va passer éternité avec nous. Pour éternité, dans un corps qui est beaucoup plus glorieux que ce corps, avec des pensées, avec aucun attachement avec ce monde, en fait, avec la tristesse, avec le passé. Donc, lui, juste pour terminer ça et pour dire maintenant, lui a prêché, prêché, et peut-être il va recevoir des courants au ciel, il va certainement recevoir les récompenses parce que lui, c'est persévérant, c'est assez persévérant d'être devant un mur. C'est comme en train de taper la tête sur le mur, il n'a pas une réponse. C'était tellement dur, ces gens probablement disaient, ah Noé, c'était rigolo, pourquoi que tu as écrit ça, pourquoi tu es en train d'annoncer ce jugement, le pluie, quelle est la pluie, on n'a jamais expérimenté. Parce qu'il n'a pas plu. jusqu'à ce moment. Donc, pour eux, de dire le mot pluie, ça n'existe pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas dans le concept. Donc, ah oui, il va être la pluie, il va être un grand déluge. Ah oui, vraiment, voilà. Noé, qu'est-ce que tu es en train de dire quelque chose? Qu'est-ce que se passe? Ça va? Ça va? Donc, voilà, prêcher. Un encouragement pour nous. Quand on parle de Jésus-Christ, de parler et de dire, OK, je ne connais pas tous les faits, mais ce que Dieu a dit, c'est vrai et dans ma vie, et il faut écouter parce que votre vie est dans la balance, en fait, dans l'équilibre. Si vous décidez de ne pas écouter, ça, c'est votre problème. Mais pour moi, je dois dire cette chose. Et il a communiqué, et il a évangélisé. En face d'être moqué, on n'a pas arrivé de le sang en Hébreux chapitre 12, d'être tué pour notre foi, comme pour certains qui sont tués pour la foi. Il y a une grande liste des gens qui sont martyrisés pour la foi. Nous, on est moqué, mais c'est pas si grave que ça. Donc voilà. Cinquième point. Noé était privilégié avec une parole de Dieu. Le déluge, je vais détruire le monde. Comme pour Abraham, un ami de Dieu, parce que Dieu a dit, Jésus-Christ lui-même qui a dit, est-ce qu'on va garder ça sur le jugement de Sodome ou est-ce qu'on va parler avec notre ami Abraham? Ça veut dire un tel respect par Dieu pour nous. On est comme des amis pour Dieu. On est plus en fait. Mais de savoir on est des amis de Dieu. Et lui, il va révéler les choses qu'il ne va pas révéler à quelqu'un d'autre. S'il dit quelque chose personnel à nous, c'est pour nous. Et bien sûr, il y a des choses qu'il va partager dans l'Église. Mais il faut savoir, on est tellement privilégié. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, qui un jour va retourner de régner sur la terre, a parlé avec moi. Qui est moi? Qui est moi que Dieu peut parler? Qui je suis? Qui suis-je que Dieu peut parler avec moi? Je suis un homme. Mais il faut le faire. Donc, il a averti, ça c'est un privilège, il a averti Noé. Noé, je vais expliquer les choses qui vont passer. Je veux que tu écoutes. Et maintenant, je vais expliquer plus. Je vais demander à toi de construire une arche. Donc, tu vas construire c'est pas un bateau, c'est une arche. Tu vas construire ça. Il a donné les précisions. Il a dit, on y va. OK, tu peux commencer. Donc, c'est une conséquence d'une relation privilégiée. On a le privilège d'écouter le Dieu Tout-Puissant. Et lui, il parle personnellement avec nous, paroles à propos pour nous. On n'est pas sourd. Dieu parle. Et le matin, il peut dire, j'ai quelque chose d'important. Il a révélé certaines choses intimes dans nos vies. Il a parlé à certains sur peut-être un travail, sur un mari ou une femme. Il a parlé de certaines choses, de dire, écoute, je vais te protéger contre quelque chose. Prends pas cet appartement. Pas là-bas. Non. Ne fais pas ça. Donc, Dieu parle avec nous et il parle avec l'Église aussi. On est privilégié, on est peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas juste Noé qui a reçu quelque chose, c'est pour nous aussi. La construction de l'arche, Hébreux chapitre 11, verset 7. L'arche était construite. Et je vais finir dans quelques minutes, non, n'inquiète pas. L'arche est représenter en fait. Première chose, l'arche est la motivation de construire l'arche était une crainte respectueuse. Hébreux 11, 7. C'est par la foi que nous sommes divinement avertis des choses qu'on ne voyons pas encore et saisis d'une crainte respectueuse. Construire une arche pour sauver sa famille. Motivé par un amour, motivé par la crainte de Dieu. Quelle est la crainte? Est-ce que c'est une peur qui paralyse? Non. C'est un respect. c'est une révérence pour Dieu. Ce n'est pas de la familiarité de ah, Jésus est mon pote. Non, Jésus est Dieu puissant. Il va envoyer les gens en enfer. Il est tellement puissant. Lui-même, oui, bien sûr, il veut que tout le monde peut accepter, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais de savoir que Dieu, lui, il est puissant. Je ne peux pas traiter Jésus comme un teddy bear, un nounours. Il n'est pas un nounours. Il est Dieu. Et on ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas prévoir que Dieu va faire. Il est Dieu. Et donc, c'est avec un respect qu'il a motivé de construire l'âge. C'est le racine, le début de la sagesse et la crainte de Dieu. Le début de la sagesse. Si on est sage en Dieu, c'est parce qu'on est craint. Et si on est craint, Dieu va révéler et on va avoir plus de respect pour lui. On va être tellement sage. Donc, ceux qui sont apparemment sages avec aucun respect pour Dieu, ils ne sont pas sages, ils sont stupides, ils sont des fous, en fait. Les gens folles, on dit, je ne sais pas, fous dans l'Ancien Testament, les insensés. Les insensés, ça veut dire qu'il n'a aucune crainte pour Dieu. Et ça, c'est le début, vraiment le début de la sagesse. Et la deuxième chose, motivé par cette crainte pour Dieu, il a construit l'arche, et l'arche était une sentence, qu'est-ce qu'on peut dire? Une sentence de jugement. C'est une déclaration de jugement par Noé au peuple du monde. Pour nous, c'est de dire, on croit en Dieu et nos vies sont une sentence de jugement pour ceux qui disent, non, il n'est pas un Dieu, ce n'est pas vrai. Parce qu'on va continuer de vivre nos vies et on va marcher avec Dieu. Consécration est d'être focalisé et de mettre par nos vies ou un aspect de nos vies ou un outil pour une seule utilisation. Nos vies, une seule utilisation pour la gloire de Dieu. Et donc, cette crainte et ce respect nous amène et on est maintenant, parce qu'on a construit quelque chose, le monde peut voir que c'est clair, condamné. Donc, de ce côté, c'est la vie, de l'autre côté, c'est la mort. Et eux, ils regardent la mort et disent, waouh. Donc, pourquoi que les gens réagissent fort des fois? Parce qu'il y a une culpabilité. Pourquoi une culpabilité? Parce que nous, on n'est pas en train de mettre les gens dans une culpabilité, mais nous, par nos vies et nos présences, amènent une condamnation. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, et le Saint-Esprit, en Jean chapitre 16, verset 8, c'est le Saint-Esprit, le consolateur, mais lui qui va, il va, quel est le mot? Convaincre le monde de la péché, la justice et le jugement. Et lui habite en nous. Et les gens voient quelque chose et disent, ah, c'est une blague. Mais dans ses cœurs, jugement, sentence de jugement. Et donc, c'est étonnant qu'on voit l'âge comme ça et on voit nos vies comme ça, que c'est une sentence de jugement. Dieu va retourner pour juger le monde avec sa justice un jour. Et l'Église est là, bien sûr, pour prêcher l'amour, la grâce. Jésus-Christ crucifié. Mais aussi le deuxième, l'autre côté, la justice et aussi le jugement. Et on ne peut pas cacher ça. Le jugement et enfer est tellement important. Ça mène la valeur dans la grâce. Et voilà. Et la dernière chose, je vais terminer vite avec ça, que Noé a rendu Dieu content. Dieu va avoir plaisir grâce à nous. Comment? Parce qu'en verset 6 d'Hébreux 11, seulement par la foi on peut plaire Dieu. Et chacun de nous, si on plaît Dieu, c'est par la foi et pas par les autres choses. Pas par mes actes, pas par mes œuvres, pas par les bonnes œuvres que j'ai faites. Non, les bonnes œuvres grâce à ma relation avec lui, pas pour servir. C'est une conséquence de ma vie, comme les fruits qui poussent d'un arbre sont les conséquences de les racines et un arbre qui est en train de grandir. C'est pas l'autre côté. Donc, c'est pas l'envers. Donc, de savoir que Noé a rendu Dieu content et on fait la même chose aussi, par nos vies, de marcher par la foi. Donc, nous avons ces choses en commun avec Noé. Il faut savoir que ce n'est pas les histoires, ce n'est pas une fable, c'est vraiment vrai. Noé a existé, il a vécu des choses et un jour on va parler avec lui, on va être avec lui pour l'éternité. Et on peut prier des choses de sa vie, on peut prendre les leçons de sa vie, on peut marcher avec lui, marcher comme lui, avec Dieu. Donc voilà, je vais terminer avec ça. On est dans un monde qui est plus ténébreux peut-être, mais il y a un éclairage, il y a la vie, il y a un espoir, et on est plusieurs, et on est en train de faire une œuvre comme Noé, pour la gloire de Dieu, pour le jour où il retourne. Que Dieu vous bénisse.